au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Deveau.
Bonjour et bienvenue à notre émission Au fil des pages. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Pascal Boniface, auteur du livre Vers la quatrième guerre mondiale et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, pour nous présenter sa revue trimestrielle. Pascal Boniface, bonjour.
Bonjour.
Rappelons que l'IRIS est un centre indépendant d'expertise sur la politique étrangère, la stratégie, la sécurité et la défense. Vous-même et les autres chercheurs de votre institut sont très souvent sollicités par les médias français et étrangers pour délivrer leur analyse sur des événements d'actualité ou sur des questions stratégiques. Vous organisez également des colloques, des séminaires ainsi que des conférences et des petits déjeuners pour débattre sur des questions d'actualité. Et vous dispensez des cours de fin de deuxième cycle au sein même de votre institut. Enfin, vous dirigez plusieurs revues géopolitiques et stratégiques, dont la revue internationale et stratégique, et qui fit sa première parution en 1991. Alors, parlez-nous un peu de cette revue trimestrielle. Quels sont ses objectifs et à qui s'adresse-t-elle ?
Les objectifs, c'est à la fois d'expliciter, de réfléchir un peu sur les questions internationales qui sont très présentes dans les médias, mais pour lesquelles on manque parfois un peu de recul, de perspective. Et donc, on essaie à chaque fois de trouver des thèmes originaux ou de traiter des thèmes classiques de façon originale. Le dernier numéro de la revue qui sort là ces jours-ci est consacré à l'Allemagne. On l'a fait par rapport à la période qui s'ouvre, où nous verrons successivement en septembre des élections générales en Allemagne qui vont très probablement déboucher sur une autre forme de gouvernement. En tous les cas, on s'attend à la fin de la grande coalition actuelle. Et puis également le 20e anniversaire de la chute du mur de Berlin et donc les prémices de la réunification allemande et européenne. Et pour traiter ce numéro, c'est un peu notre façon de faire. On a pris des bons spécialistes français, allemands, des questions internationales, aussi bien sur les questions économiques, sur les questions stratégiques. Et puis, petite touche d'originalité, nous avons demandé son avis à Bixente Lizarazu, qui est l'un des Français qui est très populaire en Allemagne et l'un des Français qui a longtemps travaillé en Allemagne, même si c'est dans un cas particulier pour le Bayern de Munich, parce que nous pensons que les sportifs peuvent également avoir un regard sur la société. L'avant-dernier numéro était sur la francophonie, donc un sujet essentiel auquel votre média est très sensible par définition. Et là, c'était aussi toute une réflexion globale sur la francophonie qu'on a voulu traiter de façon dynamique, de façon progressiste et non pas de façon nostalgique ou passéiste. Nous avons eu également, suite à l'affaire des caricatures, un numéro sur « Est-il permis de critiquer l'islam ?» avec les thèses des uns et des autres. Notre objectif, c'est lequel ? C'est de donner les moyens de comprendre, les moyens de réfléchir. Et donc, à chaque fois, nous faisons un point d'honneur de donner la parole à des gens d'avis différents, à des gens d'horizons politiques, philosophiques, religieux, différents, parce que nous n'avons pas la prétention d'influencer les gens. Nous voulons simplement, je crois que c'est un meilleur argument que de dire, dans cette revue, vous trouverez un peu le kaléidoscope de l'état de la pensée sur le sujet, et non pas un point de vue dominant, quel qu'il soit très à droite ou très à gauche. Et non, on a vraiment comme code d'honneur de donner la parole à tout le monde. À qui s'adresse la revue ? Elle est tout d'abord très très présente dans tous les centres de documentation et bibliothèques, soit professionnelles et avant tout universitaires. Et puis les ambassades, les journaux, les revues de presse, les journalistes la consultent également énormément. Et puis après, je dirais, c'est le citoyen lecteur, celui qui veut avoir un peu une vue différente, qui soit s'abonne, soit l'achète au numéro, puisque c'est possible de faire l'un ou l'autre.
Chaque numéro propose un entretien avec une personnalité qui n'est pas forcément liée à la recherche en géopolitique. Comment choisissez-vous cette personnalité ?
L'idée de départ est de dire qu'il faut un peu sortir de ses propres frontières, mentales surtout, et élargir le point de vue. Et effectivement, nous pensons que des gens qui ont un regard sur le monde, qui ne sont pas des novices en relations internationales, des gens qui ont un regard sur le monde, mais qui ne sont pas des spécialistes au sens étroit des relations internationales, qui ne sont pas des géopoliticiens professionnels, peuvent apporter un point de vue un peu décalé et différent. Dans le dernier numéro, nous avons un long entretien avec Yasmina Kadra, donc l'auteur, puisque c'est un homme en fait, malgré ce surnom, malgré ce, l'auteur algérien de romans qui ont un succès. Et ce sont des romans qui parlent de géopolitique. Yasmina Kadra est un romancier, mais le cadre de ses romans est géopolitique. Et on trouvait intéressant de le faire parler de ce point de vue-là, donc d'aller un peu au-delà de son propre exemple. Et donc, l'autre fois, nous avons interrogé Lilian Thuram, qui, au-delà de ses aspects sportifs, a une vision assez large des choses du monde et qui a également beaucoup vécu et beaucoup voyagé. Nous aurons la prochaine fois un long entretien avec Tsvetan Todorov, le philosophe, mais qui s'intéresse de façon extérieure également aux questions géopolitiques. Donc l'objectif de cette rubrique est de prendre un regard extérieur à la discipline pour élargir un peu le champ.
Donc chaque numéro propose aussi un dossier approfondissant une thématique auquel participent des personnalités de renom comme François Bayrou, Jean-Marie Colombani, Dominique Vonnet. Comment faites-vous appel à ces personnes ?
C'est très simple, on les contacte directement. Ils nous font l'amitié et l'honneur de nous répondre. Pas toujours, parce que c'est vrai que ce sont des gens qui ont un agenda très serré, qui ont beaucoup d'obligations selon les moments. Mais très souvent, ils sont heureux d'avoir un peu plus de temps, un peu plus d'espace, un peu plus de recul par rapport à l'interview du quotidien. Nous n'avons pas la prétention d'être un média important. Nous n'avons pas le tirage du Monde, du Figaro, de Libération, du Parisien ou de La Croix. Mais ils savent que chez nous, d'une part, leur publication restera très longtemps parce que dans les bibliothèques, ça reste en permanence. Les étudiants viennent consulter quand ils doivent faire un exposé ou une thèse ou un mémoire. Et puis qu'il y a un autre tempo dans la discussion, dans la réflexion. Et donc, généralement, ils aiment bien avoir cette respiration par rapport à une vie politique ou industrielle trop trépidante.
Alors, on remarque aussi que Nicolas Hulot et Pixante Lizarazu interviennent dans cette revue. Alors, vous m'en parliez tout à l'heure, mais qu'ont-ils à voir avec la géostratégie ? Parce que vous faites intervenir beaucoup de sportifs ou...
Disons que j'ai une passion personnelle pour le sport et j'ai développé un petit peu ma petite pelote personnelle qui est la géopolitique du sport. Et donc je pense que le sport est un instrument du soft power, un instrument de rayonnement pour un pays et que par ailleurs, contrairement à une idée trop reçue, pas tous, mais certains sportifs ont également une réflexion. Ce sont des gens qui, certes, ont quitté souvent l'école assez tôt, mais qui, par la suite, ont beaucoup voyagé, ont eu le temps de réfléchir. Et si tous ne font pas son choix, certains font le choix de se cultiver en autodidacte parce qu'ils lisent beaucoup, etc. Et Bixente Lizarazu, qui a d'une part une très bonne connaissance de la société allemande, et je recommande vraiment la lecture de son interview parce qu'on voit qu'il parle de l'Allemagne avec à la fois beaucoup d'amour et de retenue et beaucoup de pertinence, surtout au niveau le regard qu'il a sur la façon différente dont les Français et les Allemands ont une relation avec le travail, avec l'honneur, avec les loisirs, avec le mode de vie, me paraît vraiment tout à fait pertinente et extrêmement stimulante intellectuellement. Mais au-delà des sportifs, je pense qu'effectivement, on ne va pas tomber dans quelque chose de people. L'idée n'est pas de faire du people pour du people, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais quand des gens, même s'ils ne sont pas géopoliticiens, ont des choses intéressantes à dire sur la société internationale, eh bien, ça me paraît intéressant de le faire et de ne pas dire que parce qu'on a une thèse en géopolitique, on a le monopole de la discussion et du savoir sur la géopolitique.
Vous dirigez également l'année stratégique. Quelle est la différence entre ces deux revues ?
Alors, l'année stratégique est un annuel et je dirais qu'au départ, c'est vraiment l'acte de naissance de l'IRIS. Si j'ai créé l'IRIS, c'est à cause de l'année stratégique. Pour résumer brièvement, j'avais créé l'année stratégique à la Fondation des études de défense en 1985 et puis on a eu un deuxième exemplaire en 1987 et l'amiral Lacoste avait décidé d'y mettre fin pour des raisons qui me paraissaient ne pas avoir de rapport direct avec la qualité de la publication. Et je m'étais dit donc qu'un jour je reprendrai cette publication qui est un résumé de l'actualité stratégique dans l'ensemble du monde sur l'année évoluée, l'année passée, et un peu de perspective pour l'année future. Et si j'ai créé l'IRIS il y a maintenant, pas tout à fait 20 ans, mais presque, c'est pour faire l'année stratégique, et nous sommes partis pour éditer l'année stratégique 1991 avec une subvention de 20 000 francs, donc l'équivalent de 3 000 euros. Et puis, après l'année stratégique, s'est greffé d'autres activités, les colloques, la revue trimestrielle, la formation. Donc, quelle différence entre l'année stratégique et la revue ? La revue trimestrielle, c'est une revue donc, qui paraît tous les 3 mois et qui traite différents sujets, un peu selon l'actualité, mais les sujets sont très ouverts. Et c'est une revue donc, de réflexion sur les questions internationales. L'année stratégique, je dirais que c'est plus un instrument pédagogique. Pédagogique, puisque nous faisons le point de toutes les évolutions en cours, région par région, l'année passée. Et puis, nous avons nos tableaux statistiques, où, si vous voulez savoir combien de voies ferrées existent au Sénégal, quel est le taux d'équipement d'ordinateurs de la Nouvelle-Zélande, ou quel est le pourcentage de la population de moins de 15 ans en Afrique du Sud, ou quel est le classement des pays en termes de PIB, en termes de dépenses militaires, en termes de dépenses militaires par habitant, en termes d'indices de développement humain, etc., etc. Nous avons tous ces tableaux statistiques et tous ces classements qui sont extrêmement utiles, je dirais, des étudiants aux journalistes lorsqu'ils font leur papier.
Très bien. Eh bien, merci Pascal Boniface de nous avoir présenté la revue internationale et stratégique qui paraît tous les trimestres et est disponible sur le site de l'IRIS. Je rappelle que votre livre « Vers la 4e guerre mondiale » se trouve aux éditions Armand Collin et qu'il est possible de télécharger cette émission sur le site de Canal Academy. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle émission au fil des pages.
Merci à vous.